Bien, écoutez, après ces trois propositions, je me retourne vers un autre économiste, mais qui a aussi une casquette peut-être plus politique, qui est Pierre-Alain Muet, qui va nous dire comment il réagit à ces propositions et sur le séquençage, le ciblage d'une politique monétaire et budgétaire.
Oui, merci. Je vais commencer par un propos inhabituel, c'est d'excuser mes collègues députés de la majorité qui avaient été pressentis pour qu'on ait un débat équilibré et qui n'ont pas pu venir. Vous savez que le vendredi et le samedi, les députés sont en général toujours dans leur circonscription. Alors pour moi, ça n'était pas difficile. Ma circonscription, c'est le centre-ville de Lyon. Son centre de gravité, c'est l'hôtel de ville. Donc ici, d'une certaine façon, je continue mes fonctions de député tout en pouvant participer à ce débat. Mais pour mes collègues de l'UMP, qui étaient loin, ça n'était pas possible. Alors c'est un peu dommage parce qu'on est en plein débat budgétaire. Je débat tous les jours avec d'éminents collègues de l'UMP. Enfin de l'UMP ou de la majorité sur ces sujets. Et dans l'état de nos finances publiques, c'est vrai que la question des politiques budgétaires, la question de comment nous réduirons dans le futur les déficits, c'est un sujet tout à fait fondamental. Voilà pourquoi je veux les excuser. Dire que je suis un peu embarrassé parce que je ne vais pas pouvoir défendre les deux points de vue. Je le faisais quand j'étais universitaire. Vous comprendrez que le député ne peut pas se permettre de donner un point de vue et son contraire. Donc ce sera un peu déséquilibré. Je vais d'abord réagir sur la crise. C'est vrai que c'est la seule référence qu'on ait dans l'histoire, c'est la crise de 1929. Et par de nombreux côtés, elle y ressemble. À la fois par l'explosion des inégalités qui ont conduit à cette crise, et puis par les dérives financières. Et c'est vrai qu'on a retenu les leçons de 1929. On l'a retenu du côté monétaire. Les banques centrales n'ont pas hésité à injecter de façon illimitée des liquidités pour éviter l'effondrement financier. Les États n'ont pas, et les banques centrales n'ont pas hésité à sortir des dogmes qui étaient ceux qui encadraient la politique budgétaire et monétaire. Moi, je me souviens bien des discussions que j'avais avec Jean-Claude Trichet il y a longtemps sur la conception de la politique monétaire et dans les critères de la BCE, il fallait que les États n'interviennent pas dans ce domaine, que la politique monétaire devait être strictement encadrée, suivre des objectifs, ne pas créer de la monnaie de façon importante. Et dans la crise, elle l'a fait, heureusement. Elle a empêché le système financier de s'effondrer. On a même vu des choses extraordinaires. On a vu des États intervenir sur le marché interbancaire, un marché qui était strictement réservé aux banques, où la banque centrale intervenait à peine, c'était des prêts au jour le jour entre banques, et là il a fallu que des États, parce que le système allait s'effondrer, se mettent à garantir des prêts interbancaires entre les banques. Donc on voit que dans une situation de crise majeure, on peut avoir des changements considérables dans les discours et dans la politique de politique. C'est des tabous qui éclatent le temps d'une crise. Et c'est le pragmatisme qui l'emporte. Et puis c'est la même chose du côté budgétaire. Rappelez-vous le critère de 3%, qui est un bon critère. Moi, je ne l'ai jamais critiqué. Il a explosé dans les faits parce qu'il a bien fallu faire face à une récession sans précédent. Et heureusement que les politiques budgétaires ont joué leur rôle. Donc, une situation internationale complètement différente, mais qui nous laisse quand même, et particulièrement en France, dans une situation budgétaire sans précédent. On n'a jamais connu des déficits de cette ampleur en temps de paix. On n'a jamais connu un déficit, par exemple, des finances publiques, deux années de suite, qui va atteindre 8% de l'ensemble des finances publiques, qui va atteindre 8% du PIB depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais connu une situation où le montant du déficit budgétaire, stricto sensu, 141 milliards d'euros, donc pour le budget de l'État, représente la moitié des dépenses du budget général. Et pour vous donner un ordre de grandeur de ce que représentent ces 141 milliards d'euros, parce qu'après tout, les milliards ont tellement volé dans cette crise qu'on finit par s'y habituer. Mais si vous regardez le budget de l'État, en face de ces 141 milliards d'euros, on peut mettre 14 milliards d'investissements. C'est normal. Faire du déficit pour financer des dépenses d'avenir, ça a un sens. 14 milliards. On peut mettre 42 milliards d'intérêts de la dette. Alors là, c'est déjà plus douteux, parce que quand on finance tous les intérêts de sa dette par l'emprunt, les chefs d'entreprise qui connaissent bien, qui connaissent jamais cette situation, aucune entreprise peut se permettre de le faire, savent que c'est de la cavalerie et que ça conduit dans le mur. Et puis en finant, et qu'est-ce qu'on peut mettre encore pour atteindre les 141 ? Il faut mettre les 84 milliards de masse salariale de l'État. Donc vous vous rendez compte, la situation dans laquelle sont nos finances publiques, on finance l'investissement, c'est normal. Tous les intérêts de la dette, c'est de la cavalerie. Et toute la masse salariale de l'État par le déficit. C'est-à-dire par quoi? Par l'impôt des générations futures. Car personne ne peut croire qu'il ne faudra pas un jour se poser la question de la résorption de ce déficit. Donc on est dans une situation totalement particulière, dont on est sorti dans l'histoire par des situations d'inflation qui ont fait disparaître, euthanasier les rentiers, comme disait Keynes, qu'on ne peut pas se permettre. D'abord, ça n'est pas souhaitable. Je crois qu'on s'est désintoxiqué de l'inflation. Il faut garder, il faut rester désintoxiqué. C'est l'économiste keynésien qui vous le dit. Donc je pense que ça fait un assez large consensus. Et en tout état de cause, avec l'union monétaire, on ne sortira pas de cette situation par l'inflation. Donc nous sommes confrontés à la nécessité de réduire des déficits considérables et donc de prendre la mesure des enjeux qui sont devant. Et je vais continuer à faire encore un peu plus de politique. Moi, je trouve que dans cette situation où l'État finance tous les jours, emprunte tous les jours sur les marchés financiers entre un demi-milliard et un milliard d'euros. Ça ne se voit pas, mais ça se fait tous les jours au quotidien pour financer pour l'essentiel des dépenses courantes et des intérêts de la dette. Eh bien, je trouve profondément choquant, je l'ai dit à l'Assemblée, d'évoquer un grand emprunt pour financer des dépenses d'avenir. Je suis partisan, moi, de ce que l'emprunt de l'État finance des dépenses d'avenir. Mais ce n'est pas la réalité. Donc la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on finance des dépenses courantes par l'emprunt et que la question, c'est de savoir comment on va sortir de cette situation. Alors d'abord, comment on y est entré ? Ben, c'est pas mal de regarder ce qui s'est passé chez nos voisins, parce que le reproche que je fais au gouvernement, ça n'est pas d'avoir relancé et d'avoir laissé se creuser les déficits dans la crise. Je l'ai dit, il fallait le faire. Donc là, le plan de relance, je l'ai trouvé même insuffisant, mais j'y viendrai. Mais il fallait relancer. Le reproche que je fais au gouvernement, c'est de ne pas avoir réduit le déficit dans une période de croissance qui précédait. Si vous regardez la situation de la France et l'Allemagne, et je pense que dans les tableaux de M. De Bente, on voyait les chiffres. L'Allemagne, en 2005, était exactement dans la même situation de la France, en déficit excessif. C'était 3-4 en Allemagne, ça devait être 3 chez nous. Je cite ces chiffres de mémoire, mais je pense que vous les avez sous les yeux, vous pouvez vérifier si c'est juste. Et qu'a fait l'Allemagne? Comme tous les pays européens, l'Allemagne, dans la période de croissance, elle a réduit ses déficits. Elle a ramené son déficit à zéro. L'Allemagne, en 2008 et en 2007, était pratiquement à zéro en termes de déficit des finances publiques. Les chiffres vont peut-être arriver. La France, non. La France a laissé les déficits dériver et on s'est retrouvé en 2008 à nouveau en situation de déficit excessif. C'était 3,4. Là où l'Allemagne était revenue à zéro, quelle est la conséquence? C'est que nous, on se retrouve... Ah ben voilà, c'est parfait. Ça commence qu'en 2008, mais les chiffres voilà. Que je commente, voilà, on voit l'Allemagne à zéro ici. Vous voyez, la France, c'est peut-être pas très facile à lire de loin, à 3-4, c'est-à-dire que la France était en déficit excessif à la veille de la crise, là où l'Allemagne avait réduit son déficit. Et pourtant, nous partions en 2005, tous les deux, de la même situation. Donc c'est là où se trouve toute la différence, parce que la France, dans la crise, en 2009, se trouve à 8,3 dans les chiffres de M. De Bente, qui sont ceux de la Banque centrale, j'imagine. C'est entre 8,3 ou de la Commission.
La Commission européenne, ça,
autour de 8,3, 8,2, 8,5. Là où l'Allemagne est à 3,7. Si, 3,4. Bon, moi j'avais 3,7 en tête. Donc pas du tout la même situation. Et l'Allemagne, elle a subi une crise largement aussi forte que nous, beaucoup plus forte parce qu'elle est plus ouverte au commerce international, donc elle a plus souffert que la France que la crise. Donc le problème du déficit de la France, il n'est pas né de la crise, il est né du fait qu'on n'a pas su, dans la période de croissance, réduire les déficits. Et ça, c'est vraiment une règle fondamentale. Si on veut être capable de faire face à une récession, il faut réduire les déficits publics dans les périodes de croissance. Alors, ça a une autre conséquence. On pourrait poursuivre la comparaison avec l'Allemagne et la France. C'est que la France a fait une relance que moi, j'ai qualifiée d'unijambiste. J'ai approuvé le fait que le gouvernement relance l'investissement. C'est d'ailleurs à 70% de l'investissement des collectivités locales donc, qui ont joué le jeu, qui ont relancé. Oui, il fallait relancer l'investissement, notamment public. Il fallait faire des dépenses publiques pour soutenir l'activité. Mais il fallait aussi la soutenir du point de vue de l'emploi. Et quand vous comparez la situation de l'Allemagne à la France, vous voyez aussi où se pose le problème de la France. Nous avons démarré en juillet 2008. La France et l'Allemagne étaient exactement dans la même situation du point de vue du chômage. Le taux de chômage dans les deux pays, c'était 7,4%. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais je les ai encore en tête. c'est le fait d'avoir été longtemps conjoncturiste. Donc on était tous les deux à 7,4% en taux de chômage, même situation. L'Allemagne aujourd'hui est à 7,7, c'est-à-dire qu'elle n'a pratiquement pas connu d'augmentation du chômage. Nous en France, nous avons subi une formidable augmentation du chômage qui est aujourd'hui presque à 10%. Un peu en dessous, ça dépend si on prend des données harmonisées ou pas. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a eu les moyens, par la politique qu'elle avait suivie avant, de pratiquer une politique de soutien à l'emploi, principalement par du chômage partiel. Alors tout le monde en a fait, mais on n'en a pas fait suffisamment en France pour enrayer la montée du chômage. Et moi je disais à l'époque, il manque dans ce plan de relance une partie emploi, parce que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une disparition sans précédent des emplois qui va avoir des conséquences non seulement dans la conjoncture, mais aussi sur la croissance future. Parce que les économistes parlent à juste titre de croissance potentielle, mais quand vous perdez des entreprises, quand vous voyez disparaître des entreprises, des emplois, etc., ben c'est la croissance potentielle future qui disparaît. C'est-à-dire qu'après, c'est non seulement un coût considérable à court terme, mais vous aurez du mal à faire redémarrer l'économie parce que vous allez perdre toute une fraction de votre potentiel de croissance. Ma deuxième remarque, c'est la crise est-elle derrière nous ? Heureusement, l'effondrement impressionnant, considérable, qu'on a vu dans les graphiques s'est arrêté. Mais dans la crise de 1929 aussi, il y a eu des situations où, après un effondrement qui était plus fort, la croissance est un peu repartie, puis s'est à nouveau arrêtée. J'espère que non, parce qu'il y a eu des réactions des politiques économiques plus fortes, coordonnées d'ailleurs, en Europe, ce qui a été assez exceptionnel. Mais d'une certaine façon, les causes profondes de la crise, et je pense aux dérives de la finance mondiale, elles n'ont pas été traitées. Je ne parle pas des bonus des chefs, des traders, qui a été un sujet de discussion du G20. À peine les comptes des banques se redressaient-ils qu'on voyait réapparaître des dérives que tout le monde dénonçait. Mais quand on regarde bien ce qui est à l'origine de cette crise et qu'on regarde la façon dont en 1929 on y a réagi, non pas en 1929 mais après la Deuxième Guerre mondiale, quand tous les pays ont remis des vraies régulations, on se dit qu'on est loin du compte. Il y a des sujets sur lesquels on a avancé à l'échelle internationale, les paradis fiscaux. On a avancé dans les discours, pas complètement dans les faits. Il y a eu des listes noires, des listes grises, et pour sortir de la liste grise des paradis, fiscaux, il fallait, selon l'OCDE, ce qui est juste, au moins avoir 8 conventions d'échange d'informations entre pays. Quand on regarde les paradis fiscaux et les conventions qui ont été établies, on trouve des choses étonnantes. Monaco, par exemple, puisque nous avons des paradis fiscaux à nos portes, a signé des conventions avec les îles Vierges, avec l'Andorre, avec le Liechtenstein, avec le Luxembourg et avec le Qatar. Pensez-vous que cela fasse trembler les contribuables et les clients des banques monégasques ? Donc, on voit bien ce qui s'est passé. Je pense que là-dessus, il faut aller plus loin. Il faut réellement qu'il y ait un échange d'informations systématique des banques, comme le réclament d'ailleurs aussi bien la majorité que l'opposition en France. C'est unanime là-dessus. Il faut qu'il y ait un échange d'informations systématique des banques. Après tout, on le sait le faire pour les cartes d'identité. On doit pouvoir le faire aussi pour, après tout, ce qu'on sait faire pour les hommes. On peut difficilement imaginer qu'on ne le fasse pas pour des flux financiers. La vraie raison de cette crise, c'est que les banques ont cessé de faire leur métier. C'est-à-dire le métier d'une banque, c'est précisément d'être attentif au crédit qu'elle fait et d'être attentif à la bonne gestion des dépôts des particuliers. Et à la suite de la crise de 1929, Roosevelt avait pris des mesures radicales. Il s'était dit, après tout, c'est les banques qui nous ont entraînés dans cette situation parce qu'au lieu de faire leur métier de banquier, de gérer des dépôts et de prêter, elles se sont mises à faire de la spéculation. Et Roosevelt a dit, je vais changer complètement les règles. Il a interdit aux banques, il a séparé les banques d'affaires des banques de dépôt en disant, les banques de dépôt, elles ont une mission de service public, elles détiennent des dépôts, elles prêtent aux particuliers, elles gardent les prêts qu'elles ont dans leur compte, et les banques qui veulent investir, qui veulent faire de la spéculation, elles en font, mais elles ne seront pas sauvées de la faillite par les gouvernements, parce qu'il n'y a aucune raison que les contribuables payent les pots cassés des spéculateurs. Ce système qui s'appelait le Glass-Steagall Act, moi j'ai plaidé dès le début pour qu'on le remette en place. Ça a duré aux États-Unis jusqu'aux années 90. C'était pratiquement le système général après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les banques de dépôt, rappelez-vous de nos grandes banques de dépôt en France, elles faisaient leur métier de banquier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise? Des banques ont fait des prêts, souvent d'ailleurs pas forcément des banques, non régulées, des institutions financières ont fait des prêts, se sont défaussées immédiatement de ces prêts par un mécanisme qu'on appelle la titrisation. Vous mettez dans un petit paquet, une sorte de balle de tennis, des tas de crédits dont vous ne savez pas ce qu'ils représentent, vous les lancez sur les marchés financiers, il y en a qui en achètent, y compris des collectivités locales chez nous, et après plus personne ne sait où sont ces crédits. Et il n'y a plus aucune responsabilité dans le système. Et quand ça commence à s'effondrer, c'est une crise qui est quand même partie des États-Unis, d'un marché très spécifique, les subprimes, eh bien c'est le monde entier qui est dans la crise, et comme il n'y a personne derrière pour arrêter l'effondrement des dominos, eh bien on se retourne vers les États et vers le contribuable pour dire maintenant, il faut sauver les banques. Eh bien moi je dis qu'il faut revenir à la logique de Roosevelt, au moins en garder l'esprit, c'est-à-dire faire en sorte que les réformes que l'on prendra sur les marchés financiers fassent que les banques jouent leur rôle. Je suis pour une séparation. Je pensais à l'époque être seul, j'avais écrit ça dans Le Monde juste après la crise, j'ai eu le plaisir de voir que la plume du président de la République, Henri Guénaud, reprenait cette proposition, que d'autres la reprenaient.
Comme quoi, je pense qu'un jour. C'est très écuménique,
d'abord. Oui, je fais de l'écuménisme. Mais vous voyez que peut-être qu'un jour, on arrivera à remettre l'économie financière sur ses pieds, parce que c'est un vrai sujet. Figurez-vous que dans les négociations menées par une personnalité remarquable, je suis un peu long.
Non, mais
par une personnalité remarquable qui est un ancien président de la Banque de France, de La Rosière. Il a tenté de faire en sorte qu'au moins à l'échelle européenne, on oblige les banques à garder 10% des crédits qu'elles accordaient. C'est pas beaucoup, hein. Qu'une banque prenne des risques et garde 10% des risques dans ses comptes, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle devrait en garder 80%, voire pourquoi pas 100%. Mais eh bien le 10%, ça n'a pas passé. C'est descendu jusqu'à 5%. Et je pense, comme de la Rosière, je l'ai toujours dit, que le rôle d'une banque centrale, et c'est ce qu'on a oublié quand on a fait la Banque Centrale Européenne, c'est d'être à la fois, certes, le banquier central, mais aussi le régulateur. Il n'y a pas de meilleur régulateur des marchés financiers, je pense que je vais faire plaisir à la BCE, que les banques centrales, parce qu'elles voient la situation du marché financier. Leur rôle, c'est aussi de contrôler les banques. C'était la caractéristique des banques françaises. Et il faudrait qu'on sache le faire aussi à l'échelle internationale. J'en reviens. Ce sera mon dernier point. Je reviens sur un point. Nous sommes confrontés à un déficit des finances publiques qui conduit à une dette explosive. La barre des 100%, malheureusement, on va la passer assez vite. Et je trouve que quand on ne peut plus s'autoriser, et c'est souhaitable, des situations d'inflation, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles à renverser, à reverser, enfin à changer. Et nous avons besoin, en France, je pense, de remettre complètement en cause toutes les dérives que nous avons eues dans notre fiscalité. Donc je vais dire un mot de la fiscalité, après tout il faut qu'on entre dans ce vrai débat.
Peut-être un mot, oui, pour pouvoir ouvrir le débat.
Je parlais des paradis fiscaux. Eh bien des paradis fiscaux, on en a au cœur de notre fiscalité. Quand vous prenez l'impôt sur le revenu, il y a 470 niches fiscales qui ont été accumulées au cours du temps par des députés, qui permettent de s'exonérer de l'impôt sur le revenu. La plupart des concitoyens, je suis sûr que vous, comme moi, vous ne les connaissez pas. Enfin, moi, j'ai été obligé de les regarder, donc je l'ai fait. La plupart des gens ne les connaissent pas. Mais il y a des sociétés qui sont spécialistes de ces niches fiscales, qui vous disent, vous pouvez, si vous avez des revenus très importants, vous exonérer complètement de l'impôt sur le revenu en utilisant ce qu'on appelle le Malraux. Malraux y est pour rien, mais c'est un dispositif qui est lié au monument historique. Enfin, il y a un certain nombre de niches qui vous permettent de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Et on arrive à ce paradoxe que non seulement vous pouvez vous exonérer quand vous avez des revenus extrêmement importants de votre impôt sur le revenu, mais comme le bouclier fiscal qui a été instauré est mal fait, et il y a beaucoup de députés UMP qui pensent qu'il est mal fait. Donc moi je le dis depuis longtemps, mais je découvre aujourd'hui que je suis aussi suivi par une partie de la majorité. Vous arrivez à ce paradoxe qu'on a découvert dans un diagnostic qu'on a fait de la fiscalité sur le revenu, un diagnostic avec des députés de toutes les tendances. On a découvert des situations où des contribuables qui possédaient 15 millions de patrimoine personnel, s'exonérer complètement de l'impôt sur le revenu par les niches fiscales, légalement, hein, en utilisant toutes les subtilités de la fiscalité, et donc déclarer un revenu imposable de 1 000 euros par mois, le SMIC, ne payait pas d'impôt sur le revenu, et le bouclier fiscal qui leur remboursait tous les autres impôts qui représentent 50% de leurs revenus, eh bien leur remboursait non seulement tout leur ISF, mais toute leur CSG. Je crois que ça a scandalisé beaucoup de monde. Ça a conduit aussi à un certain nombre de prises de conscience. On voit bien qu'on a un système fiscal, je m'arrêterai là, qui est complètement aberrant en France parce qu'il est complètement mité. On a des paradis fiscaux au cœur de notre système fiscal. Et je dis que si on veut affronter ce qu'il faudra bien affronter, c'est-à-dire comment réduire nos déficits, eh bien, commençons par remettre de la justice et de l'ordre dans notre système fiscal. De la justice, de l'ordre, c'est ce qu'il faut aussi à l'échelle internationale. Je crois qu'il ne suffit pas d'avoir des discours, il faut vraiment qu'on passe aux actes. Merci.
Bien, écoutez, là, je crois qu'on a eu des propositions diverses après un cadrage intéressant de ce débat. Maintenant, je vais passer la parole à la salle en vous demandant à chacun, si ça ne vous ennuie pas, de vous présenter avant de poser une question courte, parce que nous n'avons plus que 20 minutes, alors que j'aurais bien aimé redemander aux autres participants de réagir entre eux. Oui, alors là, je vous en prie, il y a 1, 2, 3... Si. Attendez, on peut...
Ça marche.
Ça marche.
Bon. Ça marche.
Claude Jandel, l'association Art 17, Gerland. Bon, moi, mon intervention, elle ne sera pas très économique, je dirais, elle serait plutôt politique, si vous permettez, parce que d'abord,
je vais vous demander de poser vraiment des questions. Nous n'avons que 20 minutes
pour
le
débat. Oui, non, mais d'accord, mais je ne peux pas non plus.
Non, je vous en prie.
On ne peut pas faire du télégraphique dans un domaine comme celui-là non plus. Hein. Vous serez d'accord avec moi. Simplement, je voulais simplement dire ceci, c'est que n'ayant pas une formation économique, donc j'ai plus l'aspect politique du problème qui m'intéresse. Je dirais ceci. Monsieur le représentant de la Banque de France, bien que vous y êtes à titre personnel, il y a des éléments que j'aimerais quand même, qui me chagrinent, c'est que vous parlez beaucoup de la BCE. Bon, on ne va pas faire un débat sur l'Europe, mais je pense que le gros problème effectivement, qui se pose actuellement, c'est que les institutions financières n'ont pas un contrôle politique et qui fait qu'effectivement, il me semble, et que là, le politique devrait avoir ça, c'est le premier aspect que je voulais soulever. Le deuxième que je voulais poser la question, c'est sur le futur emprunt qui est prévu. Je voulais savoir un peu comment, puisqu'on parle effectivement du déficit budgétaire, alors moi je regrette un emprunt, c'est toujours un endettement. Je voulais avoir quelle est votre position sur le futur emprunt, puisqu'on ne sait pas à quoi il va servir exactement. Ça, c'est la deuxième question. La troisième, une remarque que je ferai, et M. Pierre Alamuy en a parlé un petit peu, au niveau du système bancaire. C'est le problème des structures, parce que je viens au problème des structures. Il me semble que les crises monétaires et budgétaires sont d'abord pour moi un problème de structure, et notamment le fait qu'il y a une mondialisation, et je dirais au-delà de nos territoires nationaux, qui est de moins en moins contrôlée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, il ne faudrait pas revenir à l'État-nation en gardant une grande partie de sa souveraineté dans le domaine économique et dans le domaine budgétaire? Car à mon avis, dès lors où les politiques ne contrôlent plus au niveau des nations, effectivement, ils sont tributaires des aléas économiques et budgétaires internationaux.
Merci beaucoup. Mais écoutez, Olivier Demande, je pense que c'est à vous de répondre peut-être d'abord sur les...
On peut peut-être prendre deux ou trois questions.
Oui, peut-être celle-là, ça vous permettra peut-être de répondre aux questions que vous êtes posées mutuellement au travers de vos interventions, et ensuite on va regrouper les questions.
Juste une question très courte pour M. Muet et tous les autres. Vous avez parlé des paradis fiscaux internes à la France, entre guillemets. Est-ce que ça suffira à abaisser les déficits budgétaires? Quels sont les ordres de grandeur?
Très bien. Très bien. Olivier Debord, vous commencez peut-être. Hein,
oui, sur un certain nombre de questions qui portent sur, la BCE et sur le rôle de la BCE. Là, je pense qu'il me paraît difficile aujourd'hui de revenir sur une situation comme vous le proposez, de retour à l'État-nation. Parce que si vous voulez, on est dans une situation dans laquelle on a un monde globalisé, dans lequel on est obligé de prendre en compte toutes les interactions entre les politiques économiques, entre les pays. Les États-nations n'ont malheureusement plus beaucoup de pouvoir s'ils restent seuls. Donc l'idée c'est de se coordonner pour arriver à être plus fort. Et c'est un peu l'intérêt, tout le projet de l'euro, c'est d'arriver à être une proposition, une zone économique plus forte, éventuellement qui arrivera in fine à avoir un euro qui sera une monnaie qui rivalisera avec le dollar. Et pour ça, il faut forcément se mettre ensemble. C'est donc plutôt l'état de la situation des politiques économiques dans les années 80 était celle de l'impuissance des politiques économiques des États-nations. Et donc le projet européen, c'est au contraire de prendre en compte cette interaction. On ne veut plus renoncer maintenant aux avantages d'être... Jean-Claude Trichet parle toujours d'une équipe de football. Et en fait, on est maintenant une équipe. Et tous les gens au sein de tous les gouverneurs, le gouverneur de la Banque de France, siègent au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et donc influent sur les décisions de la Banque centrale européenne. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a une vision plus large qui permet de défendre les intérêts de la zone euro et donc de la France in fine, qui est un pays important de la zone euro. Donc je crois que c'est ça le facteur important du message en ce qui concerne la politique de la BCE et la situation de la BCE qui a un mandat clair, qui est la défense de la stabilité des prix, qui in fine, c'est pas un contrôle politique, c'est le contrôle. Il n'y a pas de contrôle politique qui s'envisageait, c'est au contraire le assurer un objectif en termes de défense du pouvoir d'achat des consommateurs, donc des ménages in fine. Et in fine, c'est ça le contrôle démocratique qui est fait sur la BCE, qui juge.
Il ne faudrait pas, malgré tout, avoir une meilleure coordination du côté des gouvernements sur le côté budgétaire, qui est l'autre pied, quand même.
Il y a des discussions.
L'autre millier de la politique.
Oui, il y a la coordination, elle se fait, il y a des discussions. Jean-Claude Trichet va souvent au sein de l'Eurogroupe. Notre gouverneur est souvent interrogé par le Parlement. Donc, de point de vue-là.
J'ai envoyé la balle aux États. Au ministre de l'économie et des finances.
Ça ne voudrait pas un eurogroupe.
Non, mais est-ce que la BCE ne serait pas plus à l'aise s'il n'avait pas un eurogroupe un peu plus fort et coordonné à côté d'elle?
Là, c'est une question. C'est une question qui est intéressante. Qu'il faut effectivement. Je pense qu'il y a un dialogue qui s'effectue au sein de l'Eurogroupe entre la BCE et les gouvernements. Je pense que les choses se passent bien. Ce qui est important avant tout, c'est que chacun ait un mandat clair. Hein, et la BCE a un mandat clair qui est en termes de stabilité des prix. Et donc, on a un instrument, un objectif, un instrument. Les gouvernements ont aussi un objectif et ils ont les moyens d'atteindre leurs objectifs. Donc, effectivement, à côté de ça, comme on a vu, il y a des externalités, mais elles sont gérées. Il y a des dialogues qui s'établissent entre les institutions. Hein,
Il y a peut-être un point qui est soulevé par monsieur et qui mérite vraiment de s'y attarder, c'est que si je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Olivier, c'est vrai que les banques centrales ont un mandat clair qui était la stabilité des prix. Avec la crise, on voit bien que notamment les banques américaines et anglaises ont acheté directement des titres. Et donc là, d'ailleurs, c'est une évolution qui est en train de se passer aux États-Unis. Est-ce que finalement, le politique n'a pas son mot à dire, puisque le mandat n'est plus très très précis? Et donc si du point de vue de la stabilité des prix, on a vu que c'était le seul moyen d'être efficace, là ce qui se passe c'est un petit peu autre chose avec la crise, et les États-Unis sont en train d'avoir cette réflexion sur justement un contrôle plus démocratique du comportement non conventionnel au moins des banques centrales.
Si je peux intervenir sur cette remarque, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Mathilde. Néanmoins, je pense qu'il faut bien souligner la différence comme assez importante entre la situation de des États-Unis, qui a d'ailleurs un mandat différent, comme vous savez, de la Banque centrale européenne, et la situation particulière du système financier européen. Comme je l'ai dit rapidement, mais c'est peut-être un peu trop rapide dans mon exposé, la Banque centrale européenne, en dehors du programme de covered bonds, qui était rappelé par Mathilde, a eu très peu, et Mathilde à chaque fois est très prudente dans sa présentation, elle ne parle pas de la BCE.
Très précise
dans son présentation, elle ne parle pas de la BCE. Évidemment, parce que la BCE a pris très peu de titres publics fermes dans son portefeuille. Donc il y a un gonflement sous forme, comme j'ai dit, ces opérations de repo, c'est-à-dire qu'on achète à un certain terme, et au bout d'un certain terme, les titres reviennent directement dans le portefeuille des banques. Donc on n'a pas, dans le cas de la Banque Centrale Européenne, donc ça peut peut-être rassurer monsieur, pris d'engagement à long terme. On a pris le problème est très spécifique et ne se posera pas de la même façon pour la Banque Centrale Européenne que pour le Royaume-Uni ou pour les États-Unis.
Pierre Lamuet, alors sur la BCE et puis peut-être aussi sur les paradis fiscaux.
Sur la BCE, sur les paradis fiscaux. La BCE, il faut d'abord dire une chose, c'est une chance dans cette crise d'avoir été en union monétaire. Oui, je dis que c'est une chance dans cette crise d'avoir été en union monétaire. Et ceux qui ont fait, il y a plusieurs décennies, le choix de l'union monétaire, d'une certaine façon, ils nous ont permis, nous, Européens, d'affronter cette crise dans une meilleure situation que celle dans laquelle on aurait été. Je rappelle que la France a un déficit extérieur considérable, bien supérieur à ceux qu'on a connus dans le passé qui avaient conduit en leur temps à des dévaluations. Imaginez ce qui se serait passé si on n'était pas en union monétaire. Il y aurait eu une spéculation contre le franc, il y aurait eu un éclatement des monnaies européennes, il y aurait eu une situation dramatique avec une crise financière qui se serait rajoutée à la crise mondiale. Donc oui, l'Europe et la Banque Centrale Européenne a été un bouclier. Alors maintenant, c'est vrai que cette crise, elle a montré aussi que les dogmes qui ont construit la Banque Centrale Européenne ont volé en éclats, heureusement, dans la crise. Parce que s'ils n'avaient pas volé en éclats, on n'aurait pas été capable de répondre à cette crise. Donc je pense qu'on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas en tenir compte. Et je pense que quand on voit que la Banque Centrale, contrairement à ce qu'elle avait écrit ne jamais faire, a pris des titres publics, eh bien, c'est-à-dire a fait comme les autres banques centrales comme les autres banques centrales mondiales, eh bien, il faut qu'elles se posent aujourd'hui, en tout cas les politiques doivent se poser aujourd'hui la question de savoir si on n'est pas arrivé dans une étape où la Banque Centrale doit tenir compte de la réalité et elle en tient compte dans les faits, mais au moins changer peut-être les textes. Et je pense j'ai toujours plaidé pour qu'à côté d'une Banque Centrale Européenne, qui me paraissait indispensable, il y ait un gouvernement européen, il y ait une coordination des politiques européennes. Je pense qu'il faut à côté que l'Eurogroupe, comme on dit, joue pleinement son rôle et qu'il y ait un dialogue, comme il y a un dialogue entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque américaine, il doit y avoir un dialogue entre le président de l'Eurogroupe, qui est en fait le ministre des Finances européen, et la Banque centrale, un dialogue qui doit porter sur la politique économique. Et je trouve que ce qui se passe depuis 2 ans donne parfaitement raison à ceux qui plaidaient dans le passé pour que la Banque centrale européenne devienne un peu une banque centrale comme les autres et qu'à côté, l'Europe sache avoir aussi, mettre une responsabilité politique et ne se cantonne pas à être un simple organisme public, mais sans qu'il y ait un véritable gouvernement. Je voudrais réagir avant de venir sur la question du déficit budgétaire à ce qu'a dit Mathilde Moine. Je partage ce qu'elle vient de dire sur la Banque centrale. J'ai oublié une chose, j'ai bien aimé dans son exposé ce qu'elle a dit sur du côté de l'impôt sur les sociétés, parce que je le plaide depuis longtemps pour qu'on module l'impôt sur les sociétés de façon à privilégier les bénéfices réinvestis. Et je pense que si la crise a bien montré une chose, c'est qu'il valait mieux, quand les entreprises avaient des profits, qu'elles l'investissent plutôt que d'aller les placer sur les marchés financiers. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise d'aller faire de la spéculation financière. Il vaut mieux qu'elle continue son travail. De même qu'il faut que les banques fassent leur travail, il faut que les entreprises fassent le leur. Une entreprise, c'est des hommes, c'est des machines, c'est produire des biens, des services, et ça doit être ça la priorité. Il faut qu'on remette notre économie sur ses pieds. Donc, je partage complètement l'idée de favoriser les bénéfices réinvestis et peut-être de compenser sur les bénéfices non réinvestis. Sur le déficit budgétaire, pourquoi j'ai parlé de la réforme fiscale ? Parce que je pense que, pour l'instant, tout le monde se voile la face. Et je suis même surpris que les économistes ne nous alertent pas sur la situation dramatique des finances publiques. Parce que comment peut-on sortir de déficits qui sont de l'ordre de 8% du PIB ? Ça ne s'est jamais vu. Quand ça s'est vu dans l'histoire, on en est sorti par l'inflation et par des inflations considérables. Rappelez-vous, dans les années 30, enfin, il y a eu les deux, il y a eu la déflation et l'inflation, mais après la guerre, là, ça ne sera pas le cas. Donc, il faudra des politiques budgétaires rigoureuses. La rigueur, ça veut dire la bonne gestion. Moi, je n'ai pas critiqué le gouvernement quand il a parlé de révision générale des politiques publiques, mais je la critique très fortement aujourd'hui quand je vois ce que c'est devenu, parce que je pense que, effectivement, le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un gouvernement responsable, c'est de faire en sorte que les dépenses publiques soient efficaces et qu'il faut qu'il se pose la question de l'efficacité des dépenses publiques. Où je trouve que la politique actuelle est absurde, c'est quand elle se fixe comme seul objectif de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, parce que la RGPP, comme ça s'appelle, c'est ça, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, c'est-à-dire la disparition, par exemple, cette année de 33 000 emplois. Qu'est-ce que ça représente en termes d'économie budgétaire ? Ça représente 900 millions d'euros, dont 400 sont reversés aux fonctionnaires pour améliorer leur situation. Donc ça représente une économie budgétaire de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, qu'est-ce que c'est ? C'est une journée de déficit de la France. Une journée de déficit de la France. Alors quand on fait tout un cinéma sur une grande politique qui n'arrive, qui est catastrophique du point de vue de la gestion publique. Je viens de publier un rapport parlementaire sur ce sujet. Et qu'on économise une journée de déficit public, je dis que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pour ça que je parle de réforme fiscale. Combien représentent les niches fiscales ? 70 milliards d'euros. Combien représentent les niches sociales ? Parce que du côté social, on a exactement la même chose. On a des tas d'exonérations. C'est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Il y a de quoi faire en rendant notre système fiscal plus juste pour faire des économies, pour arrêter des dispositifs complètement absurdes.
Je vais vous avouer une chose. Depuis que je suis sur Dali, ça ne date pas d'hier. Je crois qu'on rêve tous d'une remise à plat du système fiscal français.
Justement, je ne voulais pas vous couper l'appétit.
De mille feuilles invraisemblables qu'on accumule au fil des années.
Je ne voulais pas vous couper l'appétit, mais on a quand même oublié une hypothèse qui était simplement que la France fasse défaut sur sa dette souveraine, qui était un moyen de remettre à plat. Mais je ne voulais pas vous
espérons qu'on l'évitera.
Ce qui est déjà arrivé, d'ailleurs.
Peut-être qu'il y a un autre élément peut-être qu'il faut quand même souligner, c'est qu'effectivement, il a été mentionné essentiellement un ajustement par la fiscalité. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire dans ce domaine-là, mais il ne faut pas non plus... on a beaucoup parlé de bilan des banques centrales, de base monétaire, mais aussi du côté de l'État. Il y a un problème de bilan. Et donc, il y a effectivement un ajustement du côté des recettes, mais aussi peut-être un ajustement du côté des dépenses, de façon à voir rationaliser quand on sait que la France, aujourd'hui, en termes de dépenses publiques par rapport au PIB est le deuxième pays le plus élevé au sein de l'Union européenne. Donc il y a peut-être une réflexion aussi de ce point de vue-là à avoir sur un rééquilibrage des dépenses publiques. Merci.
Bien, je vais prendre 2-3 questions. Je suis désolée parce que c'est tout à fait stimulant tout cela. Alors attendez, pardonnez-moi, mais là on va prendre des questions. Oui. J'ai 3-4 questions ici et 2 questions là. On va les rassembler, soyez gentils, posez-les en questions courtes et je vais demander des réponses extrêmement courtes malheureusement à nos intervenants. Bien.
J'ai le micro déjà.
Allez-y.
Merci.
Le premier qui a le micro gagne aujourd'hui, je suis d'accord. Oui.
Ma question, elle s'adresse aussi à Monsieur De Brandt. Malheureusement, son exposé était très vite, donc heureusement qu'il va être mis sur le site. Sur le devenir en fait, du pacte de stabilité de croissance, qu'est-ce qui va devenir avec les différents déficits excessifs surtout que la France a été épinglée d'ailleurs pour son déficit.
Elle vient d'être appelée à l'ordre beaucoup plus que l'Allemagne, effectivement.
Voilà. Et aussi, vous avez parlé au fait de normalisation des politiques monétaires. Je ne sais pas si je dois comprendre par normalisation, coordination. Alors que, vous l'avez d'ailleurs redit encore une fois, l'objectif principal de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Elle érige même ce principe comme une fin en soi, alors que la Fed, elle est beaucoup plus pragmatique dans la fixation de ses taux d'intérêt, qui n'hésite pas à les baisser à un niveau très bas pour financer l'activité économique et donc la croissance. Alors que la Banque Centrale Européenne, objectif principal... merci.
Bien, je vais prendre une question de ce côté-là, et puis on va revenir vers le centre pour que j'essaie d'oublier personne. Vous n'avez pas de micro ? Bien, alors écoutez, je vous en prie, qui a un micro actuellement ? Parce que là, vraiment, le temps presse tellement que je suis navrée...
Voilà, j'ai juste une remarque par rapport au titre et par rapport à comment sortir du dopage monétaire. Ma question, c'est est-ce que pas tout simplement nos économies riches et développées s'essoufflent en termes de croissance vis-à-vis de la Chine et on n'essaie pas de maintenir nos niveaux de vie par de l'entêtement privé et ensuite public. Et donc il y a déjà des causes structurelles qui fait que déjà la partie est un peu perdue et actuellement je crois que la Chine est à 8% de croissance malgré le découplage qu'on pensait ou qu'on ne pensait pas. Ça c'est une première question. Donc on essaie désespérément de maintenir un niveau de vie, mais peut-être que ceux qui gagnent de l'argent et qui font du business et que l'activité fonctionne bien et notre business s'essouffle, l'industrie, etc. On le connaît par la mondialisation. Donc voilà, ces causes structurelles expliquent peut-être les déficits structurels, parce qu'ils ne sont pas d'aujourd'hui, déficits de 20 ans. Deuxième question, va-t-on pas justement avec les bilans des banques centrales et les bilans des États, si on peut parler de bilans d'État qui s'endettent de plus en plus, va-t-on pas vers des crises beaucoup plus graves, la crise de l'endettement public? Et donc là, ceux qui sauvent le système, qui sont à la fois les États et les banques centrales, se mettent en danger parce qu'elles se fragilisent aussi et ça pose des questions sur l'avenir. Voilà mes deux questions.
Merci. Et puis merci de parler des émergents. Donc on n'a pas du tout encore. Est-ce que vous pourriez ramener le.
François,
micro...
est-ce que tu permets, pendant que le micro aille là, je réponde très précisément sur les émergents?
D'accord.
Parce que je voudrais juste rassurer monsieur, c'est que la Chine utilise aussi le dopage monétaire. Donc de ce point de vue-là, je crois que tout le monde est à la même enseigne. Mais vous avez raison sur l'analyse. Et je crois qu'on ne pourra pas s'exonérer d'un débat sur la répartition des richesses et qu'une des explications de ce trop de crédit était que les salaires n'augmentant pas, les gouvernements aussi participaient à cette expansion du crédit pour compenser la trop faible augmentation des salaires. Donc voilà, sur ce point précis.
Bonjour, Julien Lemaître. Vous avez, Pierre Lamuet, parlé de Roosevelt et du Glass-Steagall. Il y a une chose, c'est essentiel pour être sûr que l'argent qu'on met dans les banques aille à sauver l'essentiel et qu'on ne renfloue pas les spéculateurs. Ça, c'est clair. Mais ce qui était essentiel dans ce qu'a fait Roosevelt aussi, c'est notamment d'utiliser la RFC pour faire un crédit public massif sur des projets, sur l'infrastructure, sur l'équipement, sur l'industrie, sur la formation, et pas dans la finance. Et ça, c'est ce qu'on est interdit de faire en France depuis la loi Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973, et en Europe depuis qu'on a l'article 104 du traité de Maastricht. Et c'est absolument essentiel parce qu'aujourd'hui, donc, on prête aux pirates. C'est-à-dire que la finance aujourd'hui n'est plus en train de développer l'industrie et l'économie réelle. Donc c'est comme si on payait des pirates pour transporter nos marchandises de port en port, qui devaient faire les deux, et que malheureusement, on dit on n'a pas le choix, on doit les renflouer tout d'un coup. Donc ça, je ne pense pas que vous pouvez attendre un consensus académique sur la question, parce qu'en face de vous, vous avez les pirates. Qui ne sont pas tous des gens affreux, mais voilà, c'est une question de courage politique à un moment. Il n'y aura jamais de consensus avec la profession financière sur cette question. Donc, est-ce que vous avez le courage de porter ça aujourd'hui? Voilà.
Très bien. Une dernière question, puis je suis désolée, mais je pense qu'on va arrêter là parce qu'on m'a demandé de terminer à 12h30 exactement et on a déjà débordé de 3 minutes.
Je peux? Donc Sandra Wouetti, Alternatives économiques. Juste une question très courte, peut-être à Olivier Debrandt. Aucun de vous n'a manifesté d'inquiétude particulière sur les sorties de politique monétaire. Vous semblez plus inquiet de la situation budgétaire. Est-ce que ça veut dire que vous ne partagez pas les inquiétudes de certains? Je pense notamment, on nous a distribué une longue interview de Patrick Artus, très alarmiste sur le fait que la politique monétaire trop expansionniste gonfle les bulles de prix d'actifs. Et d'ailleurs, j'ai bien noté que quand vous nous présentiez les indicateurs qui vous semblaient devoir être suivis pour savoir à quel moment on sortait, vous avez mentionné l'inflation, mais vous n'avez pas mentionner l'inflation des prix d'actifs. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, effectivement, je crois que là, ça permet de répondre à quelques questions qu'on n'avait pas encore abordées. Qui commence?
Oui, toute une série de questions difficiles à répondre de façon synthétique. Juste pour vous expliquer que la normalisation qui était évoquée, comment va se faire cette normalisation monétaire, effectivement, je crois qu'il faut signaler plusieurs choses. C'est d'une part que nous sommes dans une situation, comme j'ai dit, différente des États-Unis, hein, dans lequel où la crise n'a pas quand même plus mesurée. Hein, sur le système bancaire, le système financier, sur la masse monétaire en Europe qu'aux États-Unis. Donc les défis sont moins importants. Hein, et qu'on surveille un certain nombre d'indicateurs. Et là, si je n'ai pas mentionné les prix d'actifs dans mon intervention, c'est parce que c'était trop rapide et ça figurait aussi sur mes slides. Donc c'est effectivement quelque chose qui est regardé avec vigilance. Mais pour l'instant, l'expérience historique, comme j'ai expliqué, montre que les évolutions sont quand même mesurées, sont quand même retardées. Il y a un ajustement relativement tardif et la normalisation se fait généralement dans des conditions... lente et progressive la politique monétaire qui est suivie est justement de se garder toutes les marges de manœuvre pour sortir plus vite ou moins vite selon justement ces indicateurs qui apparaissent. Donc la Banque Centrale Européenne, fidèle à sa tradition de regarder les différents indicateurs économiques et financiers, est prête à ajuster sa sortie de façon plus rapide, de plus ou moins rapide, et comme j'expliquais, mais c'était un peu rapide, il y a différents scénarios et selon le type de risque qui apparaît dans l'économie, si effectivement on a une normalisation plus rapide du système bancaire que dans l'économie, on va dans ce cas-là sortir des mesures non conventionnelles, comme on l'a dit, je préfère non conventionnelles à non orthodoxes.
Oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai que...
qui est effectivement le terme qui a été utilisé. Oui. On peut sortir, on peut démanteler plus rapidement, c'est tout à fait possible,
démanteler plus rapidement les politiques non conventionnelles.
Et si au contraire, il y a augmentation, si la sphère réelle ou voire la sphère financière sort plus rapidement que le système bancaire, on peut très bien réutiliser les armes conventionnelles comme que sont les taux d'intérêt. Hein, donc on a une panoplie d'instruments qui sont à disposition pour faire face à toute une série de situations diverses.
Simplement, je voulais peut-être continuer un peu cette question parce qu'on ne l'a pas tellement abordée. Comment se fait-il qu'au cours des G20, on parle relativement peu de politique monétaire ? Est-ce que c'est parce que tout le monde y trouve son compte ou est-ce qu'il y a une espèce de stratégie de la terreur là ?
Non, je pense qu'il y a un certain consensus sur même chez les économistes, hein, c'est pas seulement chez les banquiers centraux, chez les économistes.
Vous pensez que Jean-Claude Trichet, quand il ira en Chine dans quelques jours, se sentira très à l'aise ? Je ne suis pas sûre. Bon.
Oui. Bref.
Non, je vais. On doit finir, donc je voulais remercier tout le monde de la qualité des questions et de l'intérêt que vous avez manifesté.
Merci. Pierre-Alain, vous avez deux mots.
Je ne sais pas si on.
Mais deux mots.
Deux mots, donc deux je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Moi, je pense que cette crise a montré que des responsabilités d'une partie du système financier a coûté très cher aux contribuables. Alors, on peut dire, pas vraiment, puisqu'effectivement. D'une certaine façon, l'argent public qui a été mis pour sauver les banques, on l'a en partie retrouvé, du moins dans les pays qui ont pris des vraies prises de participation. Mais ça a quand même coûté très cher parce que c'est une crise qui a mis l'économie mondiale dans une situation où le chômage explose, où il y a une faible croissance. Il faudra des années pour sortir de cette situation. Et je dis que si on ne remet pas les choses à l'endroit, si on ne remet pas la finance à sa place, qui est indispensable, mais qui ne doit pas devenir un casino. La finance, elle est là pour financer l'économie réelle. C'est la logique qui a prévalu pendant des décennies, quand le système financier mondial fonctionnait bien. Il faut aujourd'hui qu'on remette les choses en état. Sur l'emprunt, je pense que ça aura un sens à l'échelle européenne. Oui. Je continue à penser qu'en France, c'est de la poudre aux yeux. Mais je n'irai pas plus loin. Moi, je voudrais aussi remercier tous les participants.
Merci.
On aurait pu poursuivre le débat.
Absolument.